Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
À 8h47, c'est l'heure des grands débats. Lydia Guirous, Elisabeth Lévy, vos appels, hein, 0826-300-300. Ce matin, Christine, tiens, qui nous appelle d'Ardèche, est avec nous. Bonjour Christine.
Oui, bonjour Christine.
Oui, bonjour Sud Radio. Alors là, je suis très très contente de passer pour ce sujet, hein, parce que je suis en colère, c'est pas possible.
Allez. Oula
Ça va barder.
Bon, ça va, allez-y Christine.
Allez-y.
On croirait Elisabeth Lévy.
Et Christine, il est quand même... C'est quand même 9h moins le quart du matin, donc on peut être en colère.
5h du matin.
Vous avez le droit de râler, allez-y.
Bon, juste un petit truc personnel, dans 4 jours j'ai 70 ans.
Mais
c'est
non.
C'est pour ça que je suis énervée. Si,
donc j'ai vous les faites pas.
Oui, mais vous ne me voyez pas aussi.
Vous avez la voix d'une jeunette, on vous écoute.
Bon, alors je dis, non, il ne faut pas les faire gratuits, les tests PCR. Ouais. Parce que moi je connais des gens qui vont tous les 4 jours, mais quand même, moi j'ai 70 ans. Au début, c'est vrai que j'ai eu très peur. Mm-hmm. J'ai téléphoné à mon infirmière, elle m'a expliqué. Bon, bref. Ouais. Je n'ai pas passé un seul test. Hein. Ouais. Ma fille, elle a 40 ans. Elle me dit, maman, j'y vais pas parce qu'il y en a plein qui y vont. Mais elle me dit, moi, je sens que j'ai pas le coronavirus. Alors, qu'est-ce que c'est que ces gens? Déjà, on a 5 millions de gens qui ont des cartes vitales et qui ne payent rien. Mm-hmm. On met tout sur le dos des Français. Il y en a marre. Voilà. Mm-hmm. J'ai passé mon coup de gueule.
Bon,
Après, Christine, c'est pas parce que vous n'avez pas de symptômes que vous n'êtes pas positif. Hein, donc, c'est bien de se tester une fois de temps en temps, quand même.
C'est docteur Ménibus qui parle.
Vous êtes tout
Là, moi, docteur Christine, je dis non.
Ah, d'accord. très bien.
Mais d'ailleurs.
Cécile, je dois remercier Cécile pour une chose.
Oui, oui. Allez-y.
La dernière fois, je suis passée dans votre émission un matin. Mmh. Il y avait un écrivain. Il parlait justement des gens de 70 ans, donc c'était mon âge, tout ça. Et elle m'a fait envoyer un livre par, je ne me rappelle plus son nom.
Ah oui,
je me souviens très bien.
C'était qui son nom
Ça vous a marqué. Hein.
Brice Couturier, non
Et vous l'avez reçu?
Ah oui, je l'ai reçu, dédicacé, je l'ai lu. Ah, et c'est sur l'âge, vous savez, il raconte des souvenirs d'enfance, des machins comme ça.
Comme quoi, on fait ce qu'on dit.
Voilà.
Parlons vrai et faisons les choses.
Si comme Christine, vous voulez réagir sur l'actualité, sur ce sujet, notamment autour de des tests gratuits ou pas, est-ce qu'il faut les remettre gratuitement, les tests PCR, alors qu'il y a le Covid qui menace? Alors je sais que certains doutent, etc., tout, mais enfin bon, quoi qu'il en soit, on peut se poser la question. Et bien sûr, vous n'hésitez pas, vous nous appelez 0826-300-300. Et d'ailleurs, il y a toujours ce sujet en fait autour de l'Autriche qui impose donc maintenant le confinement aux non-vaccinés. Et vous avez vu ce qui se passe aux Pays-Bas. Aux Pays-Bas, maintenant, il y a certains commerces qui vont fermer de nouveau à 20h le soir, 19h, 20h. C'est une sorte
de couvre-feu.
Couvre-feu, bien sûr, quoi. Elisabeth Lévy, déjà, est en rogne en se disant non, c'est pas possible, on va pas nous imposer, en fait, de nouveau ce couvre-feu, quoi, Elisabeth.
Ah non, là, non.
Je lis dans vos pensées.
Eh ben vous lisez dans mes pensées, mais on nous a pas dit qu'il faudrait vivre avec ce virus, et en plus que ça risque de durer des années, donc je le répète, dans vivre avec ce virus, il y a vivre.
Ouais.
Et puis écoutez les chiffres qui sortent, hein, à la fois sur le taux d'occupation des lits, vous en avez parlé déjà, Patrick, mais aussi sur le fait que les gens qui sont morts pendant cette pandémie, en France en tous les cas, je crois que plus de 82 ou 83% avaient des comorbidités. Donc peut-être à un moment il faudrait en tirer les conséquences et faire porter l'effort sanitaire sur ces gens-là. Qu'avoir la maladie sans en mourir, c'est pas grave du tout. Mais bon, la surpanique, il commence à y en avoir ras-le-bol.
Sur les personnes les plus fragiles, quoi, oui.
Lydia Guirous. Mais qu'on cible et qu'on vaccine les personnes les plus fragiles, qui ont des comorbidités. On sait très bien qu'il y a encore 10 à 15% de personnes qui ont plus de 80 ans qui ne sont pas vaccinées. Des personnes en situation d'obésité qui ne sont pas vaccinées. Et c'est eux qui sont le plus à même de faire une forme grave. Pourquoi on ne cible pas davantage ces personnes-là? Moi, j'en ai marre qu'on nous fasse sans arrêt un chantage à l'enfermement et surtout qu'on fasse porter une forme de culpabilité sur les plus jeunes. Hier, je débattais donc sur une chaîne de télévision CNews, et l'un des intervenants dit oui, mais c'est normal qu'on mette le masque et puis qu'on confine aussi même les jeunes parce que s'ils sont responsables de la mort de leurs parents ou de leurs grands-parents. Je trouve ça indécent et j'en ai ras-le-bol du chantage au confinement et et il faut vivre avec. Ouais. Elisabeth a raison. N'oublions pas
des mesures de précaution.
À mon avis, de confinement, pardon, un mot.
Oui. Elisabeth,
il n'y aura pas, grâce à l'élection présidentielle, je pense que de confinement... Et au fait d'ailleurs qu'il n'y a plus d'argent magique, je crois que le confinement, ça, c'est pas une menace. Mais en revanche, toutes ces mesures...
Pas exclu quand même, hein.
Oui, mais j'y crois pas.
Oui,
toutes ces mesures, je pense qu'ils veulent en plus... Je pense que c'est des paniquards et qu'ils veulent nous paniquer. Mais toutes ces mesures, les masques partout, les couvre-feux, etc., ça, oui... Si vous voulez. Et puis une espèce d'ambiance où ces pères fouettards arrivent toute la journée en disant vous n'avez pas été sage, hein, on va vous, comme le dit Lydia, on va vous enfermer. Non mais là trop, c'est trop. Ouais. Vraiment, moi je suis plutôt pour le vaccin. En plus, c'est pas du tout, j'ai pas d'hostilité au vaccin, à part que je vois pas l'intérêt. À partir du moment où on transmet pas beaucoup moins avec le vaccin, effectivement, vacciner les jeunes qui ne risquent vraiment pas grand-chose, ça n'a pas de sens.
Ouais.
Obliger les jeunes à se vacciner, ça n'a pas de sens. Mais moi, je suis plutôt pour le vaccin. Mais en
vous
gros,
avez vu que,
vraiment...
à propos des jeunes, en Autriche, on va jusqu'à vacciner les plus jeunes aussi. Là-bas, ils sont.
États-Unis
aussi. Ouais,
et
aux États-Unis.
À partir de 5 ans. Ouais.
Ouais,
moi, je suis plutôt hostile à cela parce que la balance, comme ils disent, bénéfice-risque est plutôt très limitée. Les enfants développent des formes plutôt, pas beaucoup de formes graves, c'est, je crois qu'il y en a eu une dizaine, et encore souvent ils avaient des comorbidités. Et puis si les adultes sont vaccinés, autant essayer de préserver les enfants. Enfin, vraiment, moi, dans cette crise de la Covid, je trouve que ce sont les grands sacrifiés quand même.
Oui, même si aujourd'hui progressivement c'est assez terrible, mais ils sont en train de s'adapter, de vivre avec le masque et finalement en classe.
Ouais.
Oui, c'est assez terrible.
Il y avait un papier d'orthophoniste dans le JDD, je crois.
Il me semble
que vous avez dû le lire.
Oui.
Et non, Patrick,
non, mais
ils s'adaptent parce que c'est des gamins et qu'ils s'adaptent.
Ouais.
Mais malgré tout, le masque, c'est terrible. Vous avez des mômes qui sont nés, qui doivent penser, si vous voulez, que les êtres humains ont un truc sur la, sur le visage.
Moi, j'en ai deux jeunes qui n'ont vu que le masque, qui n'ont vu que des maîtresses avec des masques, qui ne savent pas qu'on fait la bise. Il fallait lui expliquer qu'on faisait la bise en France pour dire bonjour, qui ne savaient pas qu'on se serrait la main, parce qu'elles n'ont pas connu, ça. Et je trouve ça terrible. Et puis, dans les phases d'apprentissage, quand ils entrent en CP, ils ne voient pas la bouche de leur professeur. J'attends toujours les fameux masques transparents qui avaient été promis par Jean-Michel Blanquer. Ben, ça devrait être généralisé. Moi, je vois toutes les maîtresses avec des masques qui cachent la bouche. Et là, on va le payer très cher dans les années à venir.
Alors,
parce qu'au niveau de l'apprentissage, ça a des conséquences.
Alors, on va en parler dans un instant, juste après la pause. Vous restez avec nous et vous nous appelez. Est-ce que vous pensez que le niveau scolaire a baissé ou pas? Eh bien, en primaire, il paraît que non. Il est remonté en cette année 2021. Ce sont les résultats des tests qui ont été effectués en école primaire après la baisse.
En revanche, il y a des problèmes de lecture.
Oui. On va voir ça dans le factuel avec Félix Mathieu et puis on en débattra avec vous. Et vous, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous avez peut-être des enfants, vous avez peut-être des petits-enfants. Est-ce que vous avez le sentiment que finalement, ils ont passé cette difficulté, cette période quand même compliquée avec le Covid, eh bien, ils se sont remis en fait au travail et ça va, ça progresse. Et que pensez-vous aussi de l'autre question que nous vous posons sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'il faut écarter de la vie politique les auteurs de violences sexuelles ou de viols? Vous dites à plus de 90%, quasiment. 89%. Sur les réseaux sociaux.
Oui,
bien sûr, mais il y a quand même un certain nombre de questions autour de
ça. Il y a des
nuances
sur la condamnation.
On y revient dans un instant. Gardez vos arguments, Elisabeth Lévy. On a besoin de vous dans un instant, comme vous, au 0826 300
300. À tout de suite.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
9h02, merci d'être avec nous. Vous pouvez nous appeler, bien entendu, au 0826 300 300. Avec nous ce matin, les éditorialistes Elisabeth Lévy et Lydia Guérou. Si on va revenir sur le niveau des élèves de CP et de CE1 qui auraient de nouveau progressé après la baisse liée au confinement.
Oui, et puis cette idée aussi, hein, vous avez vu en tout cas cet appel de plusieurs femmes, plusieurs dizaines de femmes, essentiellement en fait de gauche, demandant à écarter de la vie politique les auteurs de violences ou de violences sexuelles ou de viols. On va voir ça en fait dans un instant. Mais juste avant, on poursuit quand même autour des tests PCR, etc. C'est notre question du jour, l'une des questions du jour sur les réseaux sociaux. Nous entendions Christine tout à l'heure, on en a débattu avec Elisabeth Lévy et Lydia Guirous. Et puis, vous réagissez. Hein, c'est au 0826 300 300.
C'est Claude qui nous appelle de Saint-Cyprien.
Oui, bonjour Claude.
Bonjour Claude.
Oui, bonjour à tous les quatre.
Oui.
Je me présente, j'ai 70 ans et je suis retraitée.
Oui.
Voilà, Je ne suis pas encore vaccinée, mais c'est pas par choix, pas parce que je suis anti-vaccin. Simplement, j'ai été vaccinée contre le HN.
Ah
et
oui.
Ça m'a déclenché une paralysie faciale qui a duré 6 mois. Mmh. Donc, j'ai interrogé mon médecin, j'ai fait le tour de mon phlébologue, de mon pneumologue. Tout le monde me dit, bon, on ne sait pas trop, c'est pas trop conseillé de le faire. Mmh. Mais personne ne me dit fermement, ne veut pas prendre le risque. Voilà. Mmh. Personne ne veut me faire un certificat disant, voilà, vous ne pouvez pas, parce qu'au cas où je l'attrape quand même, j'attrape, il y a une responsabilité, ils ont peur de la responsabilité. Et moi, je me retrouve dans la situation où maintenant, les tests ne sont plus gratuits.
Eh oui.
Mais si je veux faire un test, c'est un budget et je suis retraitée.
Oui.
Donc, ce qu'il faudrait qu'ils fassent, au moins, faire un test gratuit pour le non-vacciné une fois par mois.
Mais est-ce que il n'y a pas des dérogations ? J'avais cru comprendre que pour les personnes un peu plus fragiles...
Oui, mais il faut trouver le médecin qui le fasse.
Mais
moi, les médecins ne veulent pas prendre le risque.
Ah bon ?
Voilà.
Ah oui.
Voilà.
Vous êtes dans quel secteur, Claude ? Vous êtes où ?
Moi, je suis à Barcarès.
D'accord, à Barcarès, oui.
Ah non, à Saint-Cyprien, excusez-moi.
À Saint-Cyprien, bon.
Oui, Saint-Cyprien, c'est dans le 66, à côté de Perpignan.
Oui,
voilà.
D'accord, bon.
Donc, je fais attention. Bon, mon mari était allé se faire vacciner aujourd'hui, parce qu'il m'a dit qu'il ne voulait pas se faire vacciner parce qu'il appréhendait et tout, parce qu'il a justement des problèmes, parce qu'il a eu des absences avec des évanouissements, des pertes de connaissances. Mmh. Il a fait un des examens et bon, il m'a dit je vais le faire quand même et on verra bien. Mais voilà, il y a des gens qui ne se font pas vacciner. Ce n'est pas un choix.
Oui, non, mais
il faut pas nous mettre l'opprobre dessus.
Non, non.
Dessus, c'est que nous sommes même embêtés.
Oui,
parce que moi, j'aimerais bien, on me dirait, il y a une pilule, et vous la prenez, vous êtes vacciné. Je vais en courant la prendre.
Et Claude, pour vous, en plus, c'est difficile. Si, par exemple, vous voulez voyager ou vous déplacer,
ah,
c'est un peu...
Je ne peux pas voyager.
Du moins,
prendre le train. Si vous voulez, on est à côté de l'Espagne.
Ouais.
Si on veut aller passer une journée, mettons, à Rosa, ce qui n'est pas loin, il faut que je me fasse tester et revenir de suite.
Ouais.
Je ne peux pas partir, si vous voulez, mettons au Portugal et faire des beaux voyages. Je ne peux pas.
Ouais, non, c'est en voiture. Alors, vous pouvez partir en voiture, mais s'il y a des contrôles.
J'entends beaucoup de gens qui jettent l'opprobre.
Non, mais je comprends.
Mais il faut regarder que c'est pas tout le monde.
Oui, il faut regarder cas par cas, effectivement.
Choix.
Bon, vous avez bien fait, en tout cas, d'appeler 0826 300 300, parce que vous le savez, Sud Radio, c'est votre antenne, c'est vous qui composez l'antenne, hein, bien sûr. On compte beaucoup sur vous. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. Vous nous écoutez depuis longtemps, Claude, avec votre mari ou pas ?
Oui, ça fait à peu près un an.
Ah d'accord, bah c'est pas si vieux que ça.
Voilà.
On est ravis. Bah, tiens, on va vous envoyer, on va prendre vos coordonnées, on vous enverra un petit cadeau. Hein, je vais voir ça tout à l'heure.
Bah, voilà,
un petit cadeau comme ça.
Merci de m'avoir autorisé à m'exprimer.
Est là pour ça. Merci beaucoup.
0826 300 300 comme Claude, vous n'hésitez pas. Alors revenons donc sur l'impact du masque dans les écoles, sur le niveau des élèves, sur le confinement, c'est-à-dire pas de présentiel. Bien souvent, c'était à distance. Alors, selon le ministère de l'Éducation nationale, Félix Mathieu, c'est votre factuel de ce matin, les retards auraient été résorbés. Les évaluations de rentrée témoignent d'un niveau équivalent à celui de septembre 2019, avant la pandémie, c'est ça ?
Oui, une des retards avait pourtant été constatée, effectivement, en français, en mathématiques, après le premier confinement, notamment en 2020. Des retards donc résorbés, effectivement, d'après le ministère de l'Éducation nationale. Il s'appuie donc sur ces évaluations qui ont été instaurées il y a 3 ans, en septembre et en janvier, pour mesurer le niveau des enfants à entrer dans les classes dites charnières, en CP, en CE1, 6e et seconde aussi. Alors déjà, au cours de la dernière année scolaire, les retards constatés en CP avaient été résorbés d'après ces évaluations dès le mois de janvier 2021. Mais bon, les progrès quand même de ceux des écoles les plus défavorisées restaient moins importants en français. Ouais. Cette année, à la rentrée de septembre, les élèves ont donc, selon ces chiffres de l'Éducation nationale, retrouvé les résultats équivalents à ceux de la rentrée 2019 avant la crise sanitaire. Chez les CP, d'après une responsable de l'Éducation nationale, on a même un niveau supérieur à septembre 2019 en reconnaissance des lettres ou alors en comparaison des nombres. Un rattrapage de niveau perdu qui d'ailleurs cette fois concerne aussi les établissements classés en zone
REP+. Mais attention, attention, un syndicat de professeurs de collège disait ce matin, il y a quand même des nuances.
Hein. Oui, en lecture, un bon tiers des élèves qui arrivent au collège sont loin du niveau requis. Un bon tiers d'élèves de 6e capables de lire non pas 120 mots par minute, comme requis par l'exercice, mais 90 mots par minute, soit un niveau de CE2 alors qu'ils arrivent au collège. Alors, situation encore plus marquée dans les collèges de l'éducation prioritaire. Au total, en fait, en 6e, seule une petite moitié des élèves qui arrivent au collège présentaient un niveau jugé satisfaisant à cet exercice de lecture.
Merci Félix Mathieu, Elisabeth Lévy, Lydia Guirous. Elisabeth, croyez qu'on a rattrapé le retard alors ?
Bah, j'ai beaucoup de mal à y croire, pour tout vous dire, à cette étude providentielle. Comme par miracle, ça y est, un petit coup de baguette magique. Et puis, de toute façon, je pense que le problème, c'est le niveau de base, en fait. C'est-à-dire que...
Ce que disait Félix à la fin, c'est-à-dire un bon tiers des élèves de 6e n'arrive pas à lire plus de 90 mots par minute.
On est revenu au niveau, mais à quel niveau ? Il faudrait peut-être tout de même... C'est ça qui me semble le plus inquiétant, mais même... Sur le fait, je me rappelle ces études tout à fait alarmantes l'an dernier. Bon, bah écoutez, si on l'a rattrapé, c'est miraculeux, mais j'avoue que je suis un peu sceptique.
Bon, vous êtes sceptique, comme souvent. Hein.
Je partage son Lydia scepticisme aussi. Et j'y crois pas beaucoup.
Pourquoi
Franchement, je vois pas par quel miracle ils ont rattrapé ce retard. Quelle est la base?
Bon,
on a les présidentielles qui approchent. Ça aurait été malvenu de dire que le niveau
avait baissé,
avait chuté, qu'on l'avait pas rattrapé. Voilà, il y a juste ce petit événement qui arrive.
Bon, d'accord.
Moi, j'y crois pas. Trop.
Sceptique. Je ne sais pas, mais peut-être que finalement, les élèves, quand ils ont travaillé aussi à distance,
avec leurs parents débordés, qui étaient en télétravail.
Oui, débordés, mais certains ont consacré quand même du temps, parce qu'il y en a aussi qui étaient peut-être un petit peu plus à la maison, etc., entre télétravail. Il y en a peut-être qui, finalement, ont permis à leurs enfants de... Non.
Sans doute.
Bah oui, peut-être, mais ça donne.
Je vous sens très factuel.
Non, mais vous avez raison.
Je ne suis pas là pour vous convaincre non plus. Hein. Oh là là,
non, mais Patrick.
On va me dire oh là là, mais il fait de la propagande du gouvernement, oui, il fait de la. Mais non. Bien sûr, je suis là simplement pour poser des questions.
On ne pense pas ça, mais peut-être simplement vous mettez le doigt sur le fait que les moyennes ne veulent pas dire grand-chose. Il y a peut-être quelques élèves qui ont progressé et beaucoup qui ont chu.
Je
pense qu'en tout cas, les inégalités, elles se sont accrues très très fortement.
Oui. Bon, est-ce que vous auriez signé ce texte disant qu'il faut écarter de la vie politique des auteurs, des hommes politique, auteur de violences et de sexuelles et de viols.
Vous avez entendu mon édito, non ? Oui. Et puis je ne suis pas une femme de gauche, donc je ne suis pas capable de comprendre.
Alors c'est ce que disait Nathalie Loiseau tout à l'heure, elle dit de toute manière je n'aurais pas signé, puis on ne me l'a pas proposé.
On ne me l'a pas proposé, pourtant je suis...
Si elle a dit qu'elle aurait signé, non ?
Non.
Nathalie Loiseau, elle a pas
non,
dit
parce qu'elle non, suspi... non. non, parce qu'elle suspicion, dit en plus c'est de la suspicion, etc. Donc,
et elle aurait aimé qu'il y ait des hommes aussi qui signent.
Oui.
Ça aurait été plus constructif.
Oui.
Non, moi je n'aurais pas signé, absolument pas. Ouais. J'ai pas envie de signer des tribunes où se trouvent Caroline Dehaas, Alice Coffin qui est plutôt pour une guerre des sexes, ou Sandrine Rousseau, enfin voilà, je trouvais le texte pas très pertinent, un peu belliqueux quand même.
Elisabeth Lévy.
D'abord, je voulais remercier Lydia pour sa chronique que j'aurais signée dès demain, en revanche. Donc, non, moi je ne l'aurais pas signée, évidemment je ne l'aurais pas signée, notamment pour ces raisons, mais pas seulement. Moi, je ne suis pas d'accord avec cette idée d'écarter de la vie politique des gens qui ont été condamnés. Mmh. Alors d'abord, on n'est même pas sûr que c'est parce qu'ils ont été condamnés. À la fin, ce sera des gens soupçonnés, la présomption d'innocence et tout ça, on s'assoit dessus, et je vais vous dire pourquoi. La première, c'est que c'est aux électeurs de décider. Voilà. La deuxième, c'est que il doit y avoir, malgré tout, la justice, c'est aussi de payer sa dette. Je veux dire, et que quand on a payé sa dette, eh bien, je ne vois pas... alors, il peut y avoir des peines d'inéligibilité prononcées par les juges, que j'aime pas beaucoup d'ailleurs, mais en tous les cas, faire une chose systématique... alors que les électeurs peuvent parfaitement décider, ils sont au courant des condamnations. Alors on sait qu'ils réélisent parfois les gens qui sont condamnés pour abus de biens sociaux. Bon, peut-être qu'ils le feraient sans doute pas pour des violences sexuelles, mais c'est à eux de décider. Et la troisième, je ne suis pas d'accord non plus. Alors là, ça va faire hurler sans doute beaucoup de gens. On a érigé en quelque sorte le crime sexuel en crime suprême. C'est-à-dire qu'en gros, c'est plus grave d'agresser sexuellement quelqu'un. C'est très grave, hein.
Bah oui.
C'est un crime. Oui, mais c'est pas plus grave que tuer.
Oui.
Si vous voulez, c'est pas plus grave que tuer.
Non,
c'est
mais
pas
c'est
plus
tout
grave
aussi condamnable, quoi, Elisabeth. Quoi.
Mais bien sûr, la justice est là pour ça. La justice condamne, les électeurs votent, ça n'est pas la même chose et on peut alors après on peut ou on ne peut pas, mais en tous les cas quand quelqu'un purge une peine, eh bien il est supposé avoir payé sa dette. Alors c'est peut-être très théorique, peut-être qu'après les gens restent dangereux, ça les électeurs encore une fois peuvent trancher, mais cette idée complètement démagogique de dire, c'est un peu comme, comment dire, on essaye, en fait, la société essaye, on prend un bouc émissaire, on dit, ah ben voilà, ça y est, on va laver nos péchés à travers ça. Eh bien non, ça ne me convient pas, mais je sais que je suis très minoritaire, puisque j'ai entendu que 90% de nos
89% sont d'accord avec
pour
la
cette
proposition
systématique.
Oui, la proposition d'écarter d'avis politique les auteurs de viol ou de violences sexuelles, avec beaucoup beaucoup de commentaires. Vous pouvez continuer d'aller d'ailleurs voter et puis mettre vos commentaires sur les réseaux sociaux. Il y a Cathy qui dit par exemple, à partir du moment où ils sont reconnus coupables par la justice et non tribunal médiatique. Elles vont rejoindre Elisabeth en fait à ce niveau quoi. Il y a Laurent qui dit avec un peu d'ironie, hein, dans ce cas-là, il faudrait supprimer la moitié de l'Assemblée nationale.
Ah oui.
Voilà. C'est à ce point-là. Lydia, vous qui avez bien connu la politique, je
ne sais pas, je ne crois pas, je préfère ne pas y croire. Ouais. Mais non, le tribunal médiatique, surtout pas, le tribunal de la rue, surtout pas. On est dans un état de droit. Et effectivement, quand ils sont jugés et condamnés, il serait quand même beaucoup plus décent, y compris de la part des partis politiques, de ne pas les investir. Et moi, j'ai un souvenir.
Et qu'ils se retirent peut-être eux-mêmes.
Et eux-mêmes se retirent, mais bon, s'ils n'ont pas cette morale et cette décence, le parti peut peut-être l'avoir pour eux.
Oui.
Mais ça revient assez
et
souvent.
J'ajoute une chose, pardon.
Oui, allez-y.
C'est que le problème, si vous voulez, c'est que quand on dit crime sexuel, on met tout dans le même sac. C'est-à-dire qu'à la fin,
juste.
Une blague lourde, une blague lourdingue, si vous voulez, ou un sourire un peu insistant, va être considéré à peu près du même niveau qu'une agression sexuelle véritable.
Parfois
donc,
même un compliment pour
faire
certaines.
Faire attention. Un compliment, oui.
Pour certaines, ça va jusque-là. Hein. Vous dites, elle a une jolie robe. Ouh, mais c'est sexiste. Enfin, moi, j'ai entendu des trucs qui sont surréalistes. Et puis, surtout, ça nie la capacité des femmes de répliquer et de répondre. On a l'impression qu'on est des petites choses fragiles qui peuvent pas se défendre, qui n'ont pas d'arguments. Enfin, on peut répliquer et déstabiliser en face.
Ça dépend de pas mal de choses.
Oui, bien sûr, mais bon.
Ce qui se passe à Paris n'est pas forcément la même chose qu'en ruralité.
Oui.
Non, mais quand même, l'histoire de l'Assemblée où la moitié des gens... devrait être condamné là quand même.
Non, mais il y avait un peu d'ironie.
Oui.
Alex, et puis on terminera là-dessus, qui dit par exemple encore une occasion aussi pour la justice politisée d'éliminer un candidat qui ne va pas dans son sens. En l'occurrence, bah, ça vise, même s'il n'est pas condamné dans ce sens, Éric Zemmour. Avec, on parle d'histoire autour des femmes. Pour l'instant, il n'y a rien eu de prouvé, etc. Mais ça pourrait peut-être aller dans ce sens. C'est en tout cas ce que sous-entend Alex. Merci en tout cas, Elisabeth. Merci, Lydia. Vous pouvez rester avec nous pour le livre. Vient, je ne dis pas que vous avez une jolie robe, hein, surtout.
Et vous n'avez pas, oui, c'est ça,
non, non,
vous
non, non,
robe.
Non,
vous pouvez le dire,
mais
Patrick, je ne vous attaquerai pas.
Je ne dis rien.
Moi, je vous le dis, Lydia, vous avez une jolie robe.
Merci, Elisabeth. Elle n'est pas rouge aujourd'hui. Hein.
Oui, j'ai remarqué.
La tristesse est un mur entre deux jardins. Algérie, France, féminisme. Vassila Tamzali et Michel Perrault, dans un instant.
C'est un échange entre deux points de vue.
Oui,
intéressant.
Entre les deux pays aussi. Et puis, évidemment, ça un rapport avec l'actualité en fait, du moment et une résonance certaine.
Restez avec nous, on revient dans un instant.
Joli titre.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Les grands débats, ça continue. Il est 9h21, merci d'être avec nous. Wassila Tanzali est avec nous, écrivaine, avocate algérienne, ancienne directrice des droits des femmes à l'UNESCO et co-auteure de ce livre avec l'historienne Michel Perrault qui s'appelle « La tristesse est un mur entre deux jardins, Algérie-France, pardon, féminisme aux éditions d'Odile Jacob ».
Bonjour à vous, merci d'être avec nous ce matin. Livre co-écrit donc avec Michel Perrault. D'où est venue l'idée d'écrire ce livre qui est, je le disais, un peu en résonance avec les sujets du moment entre la France, l'Algérie, bien sûr.
Et les autres choses aussi.
Et les autres choses, le féminisme, bien sûr, toutes les questions, on va y revenir. Oui, décolonialisme, on va y revenir en fait dans un instant. Oui, MeToo, finalement, tous ces sujets effectivement que nous avons abordés là, ce matin.
J'ai entendu.
Mais vous, cette idée d'écrire ce livre est venue d'où? Parce qu'il est un peu original la façon dont il est conçu, quoi.
Oui, c'est une idée de l'éditrice, Odile Jacob, qui nous a téléphoné. Voilà, et évidemment, ça tombait dans un moment où on était plutôt retenu à la maison, c'était le confinement.
Ouais.
Et j'ai trouvé intéressant, en tout cas moi, et elle aussi, et Michel aussi.
Ouais,
et pourtant, au début, vous disiez, est-ce que finalement, on ne va pas s'entendre sur les mêmes sujets?
Oui, évidemment, bon, je la fais courte, mais c'est vrai qu'il y a eu un moment où je me suis dit... Et surtout quand je l'ai dit à quelques amis féministes qui sont nos amis. « Ah, mais comment vous allez...
» aborder le sujet, quoi.
Aborder le sujet. Et en fait, il s'est révélé très, très intéressant parce que, étant du même sujet, entre guillemets, partageant les mêmes opinions, en gros, on a pu aller dans des détails, ce qui n'aurait pas été possible dans des oppositions frontales. Mmh. C'est-à-dire que ça nous a évité d'être dans des postures... défendant, elle, une chose et moi, une autre. Et puis, nous enfonçons dans la défense. Enfin, vous connaissez le processus
du débat.
C'est comme ça que ça se passe. Et j'avoue que ça m'effraie et que ça ne m'intéresse pas, en plus. Voilà. L'approche, comme ça, de l'événement, de confronter, je trouve que c'est même très dangereux. Surtout quand il s'agit de sujets graves qui mettent en jeu des hommes et des femmes, des émotions, des sentiments, etc. C'est-à-dire le rapport entre la France et l'Algérie, le féminisme aujourd'hui.
Ce sont des sujets brûlants, finalement, dès qu'on les aborde. C'est pour ça que vous aviez peut-être un petit peu cette crainte avec de cette rencontre entre une historienne française qui parle de l'histoire du mouvement féminin, enfin de l'histoire des femmes, quoi, bien sûr, Michel Perrault, et vous, avocate algérienne très, très engagée. Ce sont des sujets hautement inflammables aujourd'hui, dès qu'on aborde, y compris entre femmes ?
Non, pas du tout. Ce qui d'ailleurs, je n'ai pas hésité longtemps, mais on en a parlé entre nous. Ce qui a fait parler mes amis, peut-être plus que moi d'ailleurs, c'est qu'on était à peu près du même avis et qu'on n'allait pas
s'opposer. Quoi.
Et que dans ce type de livre, ce qui fait le sel de ce livre, c'est justement les oppositions. Or, il s'est trouvé que, et je trouve que c'est formidable, et que, en fin de compte, s'il y a des différences entre Michel et moi, c'est plutôt parce que ça vient de nos disciplines réciproques. Moi, je suis avocate, et donc j'ai plutôt tendance à plaider, j'ai plutôt tendance à essayer d'arriver à une conclusion, ça c'est un petit peu, puis c'est ma formation peut-être à sciences politiques aussi. Vous savez, on nous apprend la thèse, l'antithèse et la synthèse. Alors que l'historien, lui, c'est plutôt le déroulement, le déroulement des événements. Et à la fin, ça a été riche, ça a été vraiment riche de mettre en face à face ces deux manières de procéder qui renvoient aussi à la réalité, à la réalité de la vie et du débat.
C'est très nourri, parce qu'il y a beaucoup de historiques.
À cause de nos âges et de nos expériences. Voilà.
Mais comment expliquer aujourd'hui que cette jeunesse se sente fracassée, frustrée? Comment on l'explique finalement?
Alors, vous savez, je crois qu'il faut distinguer, et ce qu'on n'arrive pas souvent à distinguer, la haine et le ressentiment. On prend souvent des manifestations du ressentiment comme des manifestations de la haine. Et c'est tout à fait différent. Le ressentiment s'adresse à l'injustice. Et d'une façon forte, presque juridique, je dirais. C'est pour ça que ça m'intéresse beaucoup. Et la haine s'adresse plutôt à l'indignation, à... qui nourrit aussi le débat. Mais je crois qu'il y a, deux courants là qui se rencontrent et qui sont intéressants.
Oui, alors justement, voyons avec vous ce qu'on évoquait ce matin, la question autour, par exemple, est-ce que vous auriez signé ce texte, vous,
texte ?
Oui, le texte MeToo politique de femmes qui disent aujourd'hui qu'il faudrait écarter de la vie politique des hommes politiques auteurs de violences sexuelles ou de viols.
Tout à fait.
Oui.
D'abord parce que, et c'est pas une réaction épidermique, hein, ne croyez pas ça. C'est parce que depuis très longtemps, quand j'étais à l'UNESCO, j'ai commencé à faire un travail là-dessus, avec les Nations Unies. Depuis très longtemps, nous essayons d'introduire les violences contre les femmes, et en particulier le viol et d'autres ce que j'appellerais d'ailleurs des tortures sexuelles.
Ouais.
Parce que le viol, c'est tellement, hein, ça quand même, c'est à l'origine de l'Europe, c'est presque beau, c'est, voilà. Il s'agit là, on est dans un domaine qui...
Presque beau, vous vouliez dire.
Non, beau, c'est-à-dire que c'est littéraire, vous savez.
Ah oui, littéraire,
le viol,
d'accord.
C'est ouais, devenu... C'est... Et nous avons tout fait pour enlever le viol. Le mot viol. Et de le remplacer par torture sexuelle. Nous avons... J'ai essayé, d'ailleurs, dans le cadre de la commémoration de l'an 2000, avec... Badinter, il y avait beaucoup de gens, de faire passer l'idée, comme elle a commencé à être acceptée en Amérique d'ailleurs, aux États-Unis, qui est très stricte sur ce sujet, l'idée que ça pouvait être un problème politique aussi. C'est-à-dire que les violences sexuelles, c'est-à-dire que le sexisme pouvait être considéré comme un délit politique, en quelque sorte. Et donc, à partir de là, nous avions souhaité que des femmes qui étaient en danger pour ces questions-là, puissent obtenir un droit d'asile. Et ça a été fait aux États-Unis quand il s'agissait des excisions et des tortures, enfin des excisions. Et donc là, ça coule sous le sens, si vous voulez, que quand une personne est accusée d'avoir été un violeur...
Alors voilà, si elle a été condamnée, c'est ça. Pas si c'est que c'est uniquement en suspicion. Il faut qu'il y ait condamnation.
Vous parlez à une avocate.
Ben oui, à une avocate. Quoi,
est-ce que ça veut dire que dans ces signataires...
Attendez. Non mais quand même, je termine. Parce que quelqu'un qui a été condamné, s'il purge en fait aussi ensuite sa condamnation, est-ce qu'il ne peut pas refaire quand même de la politique?
Mais il y a de nombreux cas. Il y a de nombreux cas où il ne peut plus faire de politique. Pourquoi pas celui-là? Celui-là, c'est grave. C'est très grave. C'est quand même la moitié de la population. C'est un mépris total des femmes. C'est une déshumanisation des femmes. Vous voyez ?
Allez, on va continuer avec vous dans un instant. On reviendra aussi au déchirement entre la France en fait, et l'Algérie. Puis on poursuivra sur le phénomène woke aussi qui apparaît. On redéfinira d'ailleurs ce qu'est le wokisme. Parce que beaucoup de gens se disent oui, alors on en parle dans les médias un petit peu partout. Qu'est-ce que ça veut dire précisément ?
Alors le wokisme, c'est une théorie un peu américaine. Que j'ai pas vraiment suivi. Si vous voulez, on peut reparler du MeToo, parce que j'ai davantage suivi.
Absolument, on en parlera dans un instant. Vous voulez donc dialoguer avec nous, 0826 300 300, restez là, il est 9h30, c'est le Grand Matin Sud Radio.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
9h33, ce livre ce matin, La tristesse est un mur entre deux jardins, l'Algérie, la France et le féminisme. Avec nous pour en parler, Wassala Tamzali, merci en tout cas d'être là.
Vassila,
qui a été coécrit avec Michel Perrault. Vous pouvez bien entendu nous appeler 0826 300 300 pour poser vos questions.
Oui, l'Algérie, la France, le féminisme. Comment vous vous situez aujourd'hui par rapport en tant que femme algérienne, féministe, hein, vous le dites aussi, par rapport aux mouvements décoloniaux aujourd'hui.
Alors, dans le livre, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais j'ai beaucoup évolué. Et c'est tout l'intérêt du livre. Ça a été
non, mais je dis pour les auditeurs.
Je le dis pour les autres. Oui. C'est-à-dire qu'au début, quand le mouvement est apparu, évidemment, je ne suis pas passée à côté. J'ai participé à des débats, surtout que les personnes qui le portaient étaient des amies, des anciennes féministes. Et des féministes toujours, d'ailleurs. Et j'étais vexée, d'abord. Parce que j'avais 20 ans à l'indépendance de l'Algérie. Et nous étions des décoloniaux. Nous étions vraiment des décoloniaux. Mmh. Il y avait une grande confusion. C'est-à-dire que nous étions des décoloniaux avec un accent. Parce que nous nous occupions de la décolonisation. Tandis que le mot décolonial, qui est un mot qui arrive d'Amérique latine, comme vous savez, et qui est un anglicisme, et s'écrit sans accent. Et il signifie l'anticolonialisme. Il y a une grande différence entre la décolonisation et l'anticolonialisme. En 62, nous avons été happés par l'euphorie de l'indépendance et de la victoire. Voilà. Et nous ne voulions plus entendre parler de la colonisation. Nous voulions tourner la page. Nous voulions parler de la décolonisation. C'est-à-dire que nous voulions construire un pays. Et ça, c'est très, très important. Je peux apporter une petite anecdote qui est véridique, si vous voulez. C'est que quand ça allait mal entre les gouvernements français et algériens, la télévision algérienne, qui est une télévision d'État, on lui demandait de passer des photos de charniers, par exemple, de la colonisation. Et il y en avait beaucoup. Eh bien, il y avait les lettres étaient envoyées au directeur de la télévision en lui disant « Mais pourquoi vous passez ça maintenant ? C'est fini, il faut tourner la page. »
Oui, les lettres du public, en fait, c'est ça. Quoi. Le public qui s'adressait pour dire « On veut tourner la page. »
veut tourner la page, donc.
Et aujourd'hui, alors, par rapport à ce mouvement qui est lancé, vous avez l'impression que, justement, il n'a rien de constructif et il veut déchirer encore un petit peu plus les deux pays, c'est
Quel
ça
mouvement
Le mouvement décolonialiste, quoi.
C'est-à-dire, d'abord, ce n'est pas un mouvement qui concerne la France et l'Algérie. Hein.
Non.
C'est un mouvement qui concerne les empires coloniaux et les autres mondes. Hein, c'est un mouvement qui a ses racines.
Mais il concerne aussi l'Algérie, parce qu'il y a quand même...
Je vais vous étonner. Oui. Je vais beaucoup vous étonner.
Oui, oui.
C'est qu'en Algérie, je n'ai pas rencontré de décoloniaux.
Non. Mais en France, vous pouvez en rencontrer.
Parce que... Ah, c'est pas la même chose. Vous parlez des Français.
Oui, oui.
Les Français d'origine algérienne.
Oui.
Ah, ils ont d'autres problèmes que nous avons.
Oui.
Et c'est justement ces problèmes qui sont au cœur de leurs revendications.
Oui, alors c'est ça. C'est-à-dire, et alors, quels sont ces problèmes, selon vous, justement?
Ces problèmes, en gros... Alors, on peut faire... je ne suis pas une statisticienne.
Bien sûr.
Mais en gros, on peut dire que c'est la troisième génération des émigrés, à peu près.
Oui.
Peut-être même plus, puisque les premiers sont arrivés en 1905, d'accord. Donc c'est des Français de troisième, quatrième génération. Comme par exemple l'Amérique latine, qui parle aujourd'hui de colonisation. Mmh. Alors que c'est les Espagnols qui ont demandé l'indépendance du Mexique, etc. C'est les armées, d'accord. Donc, il se trouve, si vous voulez, qu'aujourd'hui, traversant les siècles, cette idée de colonisation a ressurgi et qu'on lui fait porter bon nombre de problèmes qui se présentent aujourd'hui à l'Amérique latine, dans les pays qui ont été colonisés. Alors, nous devons écouter et nous devons les entendre parce que ce n'est pas un épiphénomène, c'est un phénomène. Mmh. C'est un phénomène qui traverse l'Amérique, qui traverse l'Europe et qui traverse l'Asie. D'accord. En Algérie, dans ce grand mouvement du Hirak, dont vous avez entendu parler. C'est un mouvement qui a permis au peuple algérien de prendre possession de la rue, et qui s'est arrêté à cause du Covid, et qui maintenant est dans une situation de péril.
Oui.
D'accord. Dans ce grand mouvement où le peuple algérien a exprimé ses désirs, il n'a pas été question de la colonisation française. Certes, nous avons sorti les effigies de nos héros, parce que nous avions besoin de légitimer notre mouvement de résistance en prenant appuie sur ceux qui ont fait de la résistance dans des conditions extrêmement difficiles. Et là,
dans ces conditions, il peut y avoir par les politiques justement une instrumentalisation de tout ça.
Je pense pas que le
ah, il y a entre la France et l'Algérie, on l'a vu.
Non, attendez. D'abord, c'est pas une instrumentalisation. Oui. Entre la France et l'Algérie, il y a un vrai problème qui n'est pas un problème d'instrumentalisation, qui est un problème qui existe entre la France et l'Algérie. C'est la reconnaissance. Que de la colonisation algérienne. Ça, vous ne pouvez pas tourner autour du pot. Ce n'est ni le ressentiment, c'est une question historique.
Et bien justement.
Elle n'est pas prête à être prise en compte par le peuple français, et c'est bien dommage, mais elle est là, en attente.
Ouais, mais et ça, on l'attend beaucoup en Algérie, en fait. Il y a une volonté...
Alors, les Algériens...
Bien sûr.
Je vais vous expliquer. Oui. Les Algériens n'en parlent que quand on en parle en France.
Ah oui.
C'est quand même pas les Algériens qui en ont parlé. Qui a eu l'idée? Qui a dit que le colonialisme était un crime contre l'humanité? Qui l'a dit? Qui vient dire le 17 décembre que c'est une faute impardonnable par la République?
Il a commis une erreur, Emmanuel Macron, en allant avec cette petite phrase quoi là-bas.
Écoutez, ou on y va ou on n'y va pas.
Ouais.
Ou on y va ou on n'y va pas. Parce que si on ajoute la dérision au malheur, là, c'est grave.
Oui. Mais un petit mot justement sur ce rapport de Benjamin Stora sur les 22 recommandations. Est-ce qu'elles vont assez loin, le rapport qui a été commandé par Emmanuel
Macron?
Écoutez,
la lettre qui précède le rapport et fixe un peu le cadre de travail, et que je pense que ce rapport a été aussi loin que le cadre de travail le permettait. C'est tout. Et évidemment, c'est à mon sens, c'est un peu dérisoire.
Un peu dérisoire.
Et en même temps, si vous voulez, on a pris beaucoup la peine de dire que c'était un rapport pour les mémoires françaises. Mm-hmm. C'est pas la question de la mémoire algérienne. Alors, la question que moi, je pose, d'une façon peut-être un peu provocatrice, est-ce qu'on peut séparer les mémoires françaises des mémoires algériennes?
Ça, c'est une vraie question.
Mais, ceci dit, c'est un rapport qui est pour les mémoires françaises. Je pense que les harkis se sont manifestés pour dire leur ressentiment, c'est-à-dire un sentiment d'injustice, là. Mm-hmm. Hein ? C'est pas la haine, c'est le ressentiment. Parce que, vous savez, en 2005, je crois, que le président Chirac a dit que ça avait assez duré et qu'il fallait faire une loi. Or, la loi n'a toujours pas été faite. Et donc, peut-être que c'était la place du rapport, je ne sais pas. Hein,
et tant que ce ne sera pas fait, il ne pourra pas y avoir une réconciliation, en fait, totale. Surtout dans l'esprit en fait du moment avec ces mouvements.
Avec les harkis.
Oui. Non. Réconciliation avec l'Algérie en fait complète.
Alors écoutez, moi je pense que ce que les gens raisonnables attendent.
Oui.
Ce que les gens raisonnables et qui je parle en Algérie attendent, c'est une énonciation très claire de ce qu'est le colonialisme. Nous avons besoin de ça. Et je vais vous expliquer pourquoi j'y attache beaucoup d'importance. Et ça a été un peu la différence que nous avons eue avec Michel. Alors que
Michel Perrault, l'historienne. Oui.
C'est que, en fait, en tant qu'avocate, je sais, parce que je suis juriste, je travaille sur le droit. Et je sais que le droit a cette capacité d'énoncer les crimes. Et que dans la réparation des crimes, le premier pas, c'est l'énonciation. Alors, je suis quelqu'un de très attentif aux mots, voyez-vous. Par exemple, on ne peut pas dire que ce qui s'est passé le 17 octobre 1961, c'est impardonnable par la République. Il faut dire que c'est impardonnable dans une République.
Mais c'est ça.
Voilà, c'est ça. C'est une question de vocabulaire, mais vous savez, les mots, c'est tout ce que nous avons. Moi, je travaille pas avec la bazooka, hein. Je travaille qu'avec les mots. Et ce que je mets au service de ce que vous appelez la réconciliation, ce que je mets au service de cette rencontre entre nos deux jardins, parce que j'ai puisé dans le jardin français. Je suis de culture française.
Ouais.
J'aime la France.
Ouais.
J'aime la France. Parce qu'elle m'a appris beaucoup de choses, voyez-vous.
Ouais.
Et c'est ça que je fais. Ouais. C'est avec les mots. Comment faire en sorte que ces jardins... Parce que tout ce que je dis, je le dis dans la tradition. Je m'installe, je me pose dans la tradition anticolonialiste française.
Oui.
Je me mets dans la tradition de Vidal Naquet, dans celle de Jean-Paul Sartre. Je ne suis pas en train d'amener des idées d'ailleurs. Je suis en train de vous parler de la France.
Oui, oui, oui. Voilà. La tristesse est un mur entre deux jardins, justement, c'est le titre de votre livre avec Michel Perrault, Vassila Tamsali. Merci d'être venu ce matin au micro Sud Radio. Et donc, vous pouvez évidemment acheter ce livre et piocher, en fait, beaucoup de réflexions, justement, entre l'Algérie, la France, le féminisme et beaucoup de résonance avec les sujets du moment. Dans un instant, Cécile, la France à vos côtés.
Eh bien, écoutez, on va parler d'un sujet aussi important, puisqu'on va parler de l'aide à domicile qui, aujourd'hui, vit un moment compliqué, on va en parler avec un collectif qui s'appelle Force Invisible. Et Daphna Mouchnik sera avec nous, la directrice et la présidente du CINERPA. À tout de suite.